science et religion, ok, d'accord, c'est l'intitulé le plus simple. Peut-être qu'il faudrait faire un pas en arrière et dire, au fond, c'est le savoir et le croire. Et puis savoir quel type d'articulation on met. Est-ce que c'est savoir ou exclusif croire? Savoir et croire? Bon, voilà la question à laquelle nous confrontons ce soir. Savoir, science, est-ce la science? Est-ce les sciences? Parmi les sciences, lesquelles s'agit-il? Quand on parle des sciences, ce sont des quoi? Des dossiers, des rayons de bibliothèque, des départements universitaires, mais il y a des gens. Comment allons-nous les appeler? Des scientifiques, des savants, des chercheurs. Et quand je joue avec ces mots de savant et chercheur, il y a un mot que j'aime beaucoup, qui est celui de Jean Rostand, qui disait « Beau mot que celui de chercheur, et si préférable à celui de savant, il exprime la saine attitude de l'esprit devant la vérité. Le manque plus que l'avoir, le désir plus que la possession, l'appétit plus que la satiété. Quand nous parlons de science, est-ce que nous parlons de chercheurs, donc des gens d'appétit, des gens de désir, des gens de manque, ou bien est-ce que nous parlons de savants, des gens de l'avoir, de la possession, de la satiété? Dans notre sujet de ce soir, il n'est pas impossible que cette distinction puisse être efficace. Quant à la religion, ça n'existe pas. Les religions, au pluriel. Et là encore, que nommez-vous? Mais là, vous êtes des spécialistes. Que nommons-nous les religions? Comment les distinguer des croyances? Et puis la foi, parce que parfois on dit science et foi. Pourquoi dit-on science et foi? Alors que la foi est quelque chose qui, à mon avis, relève vraiment de la démarche personnelle, voire même intime. En quoi notre intime peut-il être touché par la démarche, le discours, les propos scientifiques. Donc, on voit bien que déjà l'intitulé même est compliqué et que les déclinés montrent bien que cette thématique est, parfois, comme on dit dans le milieu médiatique, un peu un marronnier. Quand on ne sait plus trop quel dossier traiter, on va faire un grand dossier science et foi, et nos hebdomadaires le font parfois. Et bon, ben, qui va-t-on aller interroger? Quelle déclinaison allons-nous utiliser? Ce qui est sûr, c'est que immédiatement, en ces termes, nous voyons apparaître à la fois des personnes, des titres, des champs du savoir, mais aussi des champs du pouvoir, des champs d'autorité, des autorités qui s'imposent, qui se revendiquent, qui se défendent, qui veulent avoir leur place. Et tout ça, évidemment, n'est pas simple. Alors, je sais qu'en utilisant le mot d'autorité, certains me diront, mais non, oui, il y a l'autorité religieuse. Récemment, j'ai eu un débat avec un universitaire qui me dit, oui, l'autorité, les autorités religieuses, les revendications de pouvoir, mais il n'y a pas de telles revendications d'autorité et de pouvoir dans les domaines des sciences. N'en suis pas certain. Et puis, il y a des questions, surtout, des questions qui sont des questions qu'on pourrait dire essentielles ou fondamentales, et nous les connaissons bien. Il suffit d'écouter une émission de vulgarisation scientifique, lorsque notre adorable, parce qu'il est adorable, Hubert Reeves, on parle du cosmos et de l'univers, derrière se pose la question de son origine, la question de son destin, de cet univers. Bon, ça peut encore nous sembler relativement loin, parce que ce sont des milliards d'années avant nous, et sans doute des milliards d'années après nous, alors. Quand on est là, comme ça, à s'interroger, qu'allez-vous faire le 7 février? Bon, au fond, l'origine de l'univers et son destin nous intéressent peu. Et si on commence à resserrer l'échelle chronologique et l'on pense à l'origine et au destin de l'humanité, là, ça commence à devenir déjà plus tendu. Et bon, je l'évoquerai après. Là, il peut y avoir des questions qui auraient de la philosophie, de la sagesse. Comment allons-nous gérer les discours scientifiques sur l'origine de l'humanité et puis les discours de sagesse, les discours théologiques, les discours religieux sur cette même origine de l'humain, peut-être même l'origine de l'esprit ou l'origine de l'âme. Donc, là encore, les dossiers ne font que s'alourdir au fur et à mesure où je les égrène. Et sans oublier, alors, l'immense sujet, et délicat sujet de la morale, de l'éthique, puisque aujourd'hui, quand on aborde ces sujets-là, la science a évidemment son mot à dire. Aujourd'hui, au CCNE, ce sont essentiellement enfin, il y a une grande part de scientifiques qui ont leur mot à dire, et nous le voyons bien encore plus dans la crise qui est la nôtre, où les scientifiques sont consultés, prennent la parole, peuvent même influencer des décisions qui, si elles sont politiques, se relèvent aussi d'une question de morale. Et là, il peut y avoir des revendications de pouvoir de la part des ou d'autorité de la part des domaines religieux. Bref. Bon, c'est pas du tout pour noyer le poisson, c'est pour simplement vous rappeler, histoire de nous mettre dans ce bain-là, que cette thématique est, je ne dis pas qu'elle est compliquée et inabordable, mais qu'elle est extrêmement riche et que on peut en tout cas l'aborder de plein de manières. Et l'histoire est sans doute une bonne manière de l'aborder, parce que c'est une histoire, je ne sais pas, comme ça, spontanément, quand je préparais ce moment, je me disais, au fond, l'image du fleuve est évidemment très intéressante. C'est jamais le même fleuve. Donc, les dossiers que nous abordons aujourd'hui ont parfois déjà été abordés auparavant, même très souvent, mais ce n'était pas tout à fait la même chose. Les contextes étaient très différents. Ce qui est clair, c'est que c'est loin d'être un fleuve tranquille et qu'il y a eu par moments des remous, des tourbillons, voire même des véritables chutes, enfin des moments que l'on pourrait nommer de catastrophiques, au sens où la catastrophe chez les anciens, c'était le moment où un acte d'une pièce de théâtre était terminé, on passait à l'acte suivant. Et il y a eu comme ça, dans l'histoire, ne serait-ce que l'histoire moderne, à la fois des sciences et des relations des sciences avec les religions, je vais utiliser cette terminologie-là, il y a eu quand même comme ça quelques véritables catastrophes, des moments où vraiment on a changé de chapitre ou d'acte. Évidemment, et je voudrais les citer, ces trois, parce qu'il y a eu trois grands moments qui sont connus de nous tous, mais les rappeler n'est peut-être pas inutile, ne serait-ce que pour alimenter notre réflexion ce soir. C'est ce qu'on appelle habituellement la révolution copernicienne, la seconde révolution, qui est la révolution darwinienne. Et puis, même si c'est moins évoqué, mais c'est la révolution freudienne, en tout cas, quand c'est cette fois-ci notre esprit qui a été concerné par les sciences. Donc, permettez-moi de vous retracer ces trois, très brièvement, ces trois révolutions. D'ailleurs, c'est Freud lui-même qui parle de ces trois révolutions. La révolution copernicienne, elle nous intéresse parce que c'est effectivement l'entrée dans les temps modernes. La manière dont aujourd'hui, les questions que nous abordons en termes de sciences et religions, c'est vraiment dans l'esprit des temps modernes, avec effectivement un grand bouleversement qui a été marqué dans le monde de l'astronomie. Cette révolution, si elle est dite copernicienne, on pourra dire qu'elle a été préparée en fait par Copernic, fomentée par Copernic, et puis c'est, vous le savez, Galilée et ses compères astronomes qui, à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, vont poser les bases de l'astronomie moderne en mettant, j'allais dire, définitivement à deux côtés la théorie géocentrique, donc la Terre au centre du cosmos. Et en disant, ben non, c'est pour l'instant, ils ont commencé par mettre le Soleil, et puis rapidement, il va falloir eh bien, mettre même le Soleil ailleurs. Il n'y aura plus de centre, et comme on dit, le centre est partout et la circonférence nulle part. Tel sera ce qu'on va appeler l'univers. Et c'est les temps modernes, c'est vraiment la vision non plus d'un cosmos à la manière des anciens, très bien ordonné, centré sur la Terre et même encore centré sur le Soleil, mais c'est l'univers, c'est-à-dire un milieu unique, hein, comme le terme l'indique, des mêmes lois, de la même matière. Et ça, c'est une révolution qui va énormément marquer à la fois les sciences, mais aussi les esprits. Et c'est le développement aussi d'une forme d'indépendance de la pensée par rapport à tous les anciens systèmes, dont les systèmes religieux. C'est évidemment à cause de ça une révolution qui va encore aujourd'hui être symbolique d'une grande rupture entre les religions et le pouvoir religieux, et puis cette science moderne naissante. Et s'il y a un personnage que l'on peut à la fois évoquer et invoquer, permettez-moi de le faire en tout cas ce soir, c'est Giordano Bruno, hein, mort en février 1600, donc à Rome. Alors, vous serez peut-être à Rome Et sur le Campo dei Fiori, si vous allez voir sa statue, ou même plus tard dans l'année, bien, vous pouvez repenser à la soirée qu'on aura eue aujourd'hui.
L'hébergement est juste à côté.
Bon, ben voilà, donc vous pourrez penser à lui. Donc, un personnage très haut en couleur, donc dominicain. Donc, nous avons eu un parcours au début semblable. J'espère que je n'aurai pas la même fin de parcours, puisque donc, il a été brûlé sur cette place de Rome, hein, en février 1600, pour un tas de raisons qui mêlent justement, et c'est ça, un petit écho à ce que je vous disais quant à la complexité du dossier science et foi, c'est qu'il y avait à la fois des raisons scientifiques, des raisons théologiques, et puis aussi peut-être parce que cet homme avait comment dirais-je, une psychologie assez particulière et un peu jusque-boutiste. En tout cas, il a un record, je crois, qui n'a jamais été égalé, c'est qu'il a été excommunié par les trois grandes confessions chrétiennes, hein, les catholiques et les deux églises protestantes de son temps. Je crois que depuis, ça n'a jamais été, ce record n'a jamais été égalé. Bon, c'est un record quand même qui lui a valu au final le bûcher. Mais c'est le moment où voilà un homme qui, avec toute la connaissance théologique qui était la sienne, à la fois vraiment les grands anciens, la théologie scolastique, déjà tout l'apport de la Renaissance, également un grand intérêt pour la science, va mêler tout ça et va inviter à une ouverture d'esprit absolument extraordinaire. Enfin, c'est un homme qui ne pense pas à la question de l'héliocentrisme. Pour lui, tout ça est déjà très largement dépassé. C'est la pluralité des mondes, c'est l'existence d'intelligence partout dans l'univers. Et tout ça, évidemment, bouscule énormément la théologie de son temps. Et c'est là-dessus qu'il va devoir rendre compte devant l'Inquisition et au bout de 8 ans de procès, eh bien, rendre compte sur un bûcher. Donc une étape dans l'histoire des relations entre science et religion, une étape dramatique, même tragique pour cet homme, qui reste encore symbolique et qui est encore beaucoup utilisée par évidemment plutôt les libres penseurs, les francs-maçons. Enfin, Giordano Bruno est un peu leur symbole de l'obscurantisme de l'Église. Et c'est pour ça que d'ailleurs que sa statue a été installée au milieu du 19e siècle pour faire front au Vatican qui est tout près de là, hein, que Château Saint-Ange qui est voisin, pour défier encore au 19e siècle comme Giordano Bruno avait défié l'Église en son temps. Pour autant, la même époque, et c'est ça qui est assez surprenant, c'est que à la même époque, du vivant de Giordano Bruno, le pape se tournait vers les jésuites pour leur demander de revoir le calendrier et passer du calendrier julien au calendrier grégorien. Et pour ça, c'était de l'astronomie. Donc il fallait absolument intégrer les sciences de l'observation et ce qui était en train d'alimenter d'un côté la naissance de l'astronomie moderne, alimenter par ailleurs, et ça c'était pas nouveau, une astronomie au service des calendriers liturgiques, du calendrier tout court. Et c'est comme ça que les jésuites vont se retrouver à la tête de ce qui allait devenir l'Observatoire du Vatican, qui existe toujours. Alors, il a évidemment été déménagé de l'enceinte du Vatican, parce que là, on est en pleine ville et que la pollution lumineuse ou la pollution tout court empêche les observations, jusqu'à Castel Gandolfo, où se trouvent toujours les chercheurs jésuites de l'Observatoire du Vatican, et puis, depuis quelques années, en Arizona, où le même observatoire a construit un observatoire, là, cette fois-ci, avec un ciel plus dégagé et qui fait partie de grands programmes de recherche modernes. Donc, mais à l'origine, eh bien, c'est un groupe de jésuites qui travaillait, donc, des contemporains de Giordano Bruno, sachant que celui qui va condamner à mort Giordano Bruno était lui-même jésuite. Donc, les paradoxes ne manquent pas dans cette histoire, mais comme le disait Xavier, ne pas oublier que parmi ceux qui ont bâti les sciences modernes, eh bien, il y a effectivement des religieux, donc peut-être que les plus emblématiques, en tout cas les premiers, étaient membres de la Compagnie de Jésus, mais il y en a eu d'autres depuis, dans d'autres obédiences, et qui ont contribué de manière tout aussi importante, voire même peut-être encore plus connue par la suite. Donc cette première révolution copernicienne, ou cette révolution astronomique, est déjà marquée par, vous voyez, des relations assez, en tout cas, qui ne sont pas univoques et qui sont déjà plurielles, voire complexes. Mais à l'époque, j'allais dire, qu'est-ce qui était en cause? C'était le cosmos qui est devenu un univers. Au fond, ça remet en cause une manière de se représenter la réalité, mais qui est peut-être relativement, comment dirais-je, facilement assimilable par une théologie et par des croyances, parce que bon, bah, c'est au-dessus de nous, c'est relativement loin, bien sûr, ça bouscule certaines lectures, mais on peut, je dirais, faire avec, et ça va être le cas. Pour ce qui est du christianisme, globalement, les églises chrétiennes en Europe et ailleurs vont dire, bon, ben, on va laisser aux astronomes le soin de développer des visions du monde. Et puis, comme suivant cette distinction qui a souvent été introduite, les scientifiques vont s'intéresser à comment va le ciel, c'était la revendication de Galilée, et puis les théologiens vont s'intéresser au comment aller au ciel, donc le salut de l'âme ou le pourquoi du monde, le sens du monde, ça va être pour les théologiens. Mais le comment du monde, ça va être les astronomes. C'est une distinction qui est, disons, que l'on peut introduire ou que l'on peut appliquer à l'astronomie avec un certain bonheur. Et effectivement, Giordano Bruno a été le dernier à être brûlé. Galilée, lui, a été condamné. Alors, Galilée, on passe au XVIIe siècle, en 1633. Il est condamné, mais il sauve sa peau. Alors, avec, bon, il n'a peut-être pas dit, et pourtant elle tourne, mais bon, il a été trouvé un modus vivendi dans tous les sens du terme. Et puis, voilà, chacun continue dans sa voie et avec une distinction des domaines. Ce n'est plus tout à fait le cas lorsqu'on arrive à la deuxième révolution, la révolution darwinienne, où là, dans le XIXe siècle, en 1859, lorsque Charles Darwin publie De l'origine des espèces, il ne parle pas encore explicitement dans ce premier livre, en 1859, de l'origine de l'espèce humaine, mais c'est déjà présent, si bien qu'au moment de la publication de cet ouvrage, on a fêté les 150 ans en 2009 et ça a été l'occasion de se rappeler du choc qu'a été la publication de cet ouvrage. Eh bien, tout le monde se rend bien compte que ce qui est derrière la publication de Darwin, c'est l'origine de l'espèce humaine et c'est le statut de l'humanité au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui la biosphère terrestre. Et là, ce n'est plus la Terre qui perd sa place particulière d'être au centre du cosmos, mais c'est l'espèce humaine qui n'est plus le sommet de la biosphère ou le sommet de la création, pour utiliser un terme théologique, puisque l'espèce humaine n'est plus que, eh bien, occupe une branche de l'arbre généalogique du vivant terrestre. Branche à côté de laquelle se trouve une autre branche où sont des chimpanzés, des primates, des singes, ce qui, dans un contexte occidental, est particulièrement frustrant parce que, évidemment, quand je parle de symbolique, là, on joue de la symbolique chrétienne, le singe, c'est le malin, c'est le diable. Quand on dit malin comme un singe, il faut comprendre en symbolique chrétienne, malin comme un singe, mais malin aussi comme le diable. Donc, rapprocher l'humanité du diable, c'est un blasphème qui est insupportable et cela va provoquer des réactions extrêmement violentes contre cette idée d'évolution, et je reviendrai tout à l'heure. La troisième révolution, c'est la révision freudienne. Donc ça, c'est cette fois-ci où l'individu met dans son intime, dans sa conscience, dans ce qu'est l'esprit, voire même l'âme, là, la pointe de l'humain est même mise à mal, puisque les scientifiques, à travers Freud et d'autres, bien sûr, eh bien, prétendent rentrer à l'intérieur de notre conscience, à décortiquer nos passions. Et aujourd'hui, les neurosciences continuent ce travail-là avec, on le sait, un succès, c'est vrai, et quand on écoute nos amis neurobiologistes et neuroscientifiques, on peut se poser des questions les plus, au fond, les plus terribles pour des hommes de foi. Est-ce que Dieu ne serait pas une. Est-ce qu'on ne verrait pas apparaître Dieu dans les IRM et autres instruments de mesure de nos amis neuroscientifiques? Dieu serait une fabrication de notre esprit, de notre cerveau, et des mesures nous permettraient quasiment de mesurer la naissance de Dieu dans nos cerveaux. Donc là, je dirais, c'est le blasphème presque ultime. En tout cas, aux yeux de certains, ça l'est. Il nous faut, comme je vous disais tout à l'heure, bon, je vous ai donné trois étapes dans l'histoire des relations entre science et religion, en tout cas en Occident. Ailleurs dans le monde, il faut savoir que, évidemment, ce sont des questions aussi qui ont été abordées, mais il faut reconnaître, parce que souvent on me dit, bah oui, mais vous oubliez le reste du monde, et j'ai eu quand même, il y a d'autres mouvements religieux, c'est vrai, mais en même temps, il faut quand même, quand je parle de science au temps moderne, cette science des temps modernes est quand même pour l'essentiel une science occidentale. Donc, c'est en Occident, dans les lieux de naissance de cette science en général, ou de ces différents domaines scientifiques, que les affrontements vont d'abord avoir lieu. Quand il m'est arrivé de poser des questions à des collègues biologistes, je me souviens d'une discussion il y a déjà pas mal d'années avec des collègues biologistes japonais, comment se passe le rapport entre science et foi dans votre pays, je me rendais bien compte dans leur réponse qu'au fond, la science qu'ils pratiquaient comme scientifique étant une forme de science un peu importée. Là, je parlais de biologiste, mais on sait bien que, pour refaire de nouveau allusion aux jésuites, Ricci, quand il veut évangéliser la Chine, au 15e, au 16e et 17e siècle, eh bien, on va faire de l'astronomie. Et c'est donc un développement d'une science occidentale qui va être importée en Chine. Donc, c'est quelque chose d'importé, si bien qu'il y a une espèce de séparation qui fait que, à écouter mes collègues, eh bien, on peut être croyant shintoïste ou avec ses convictions religieuses liées à sa culture de son pays, et puis pratiquer une science qui paraît davantage celle d'une autre culture. Enfin, il y avait une plus grande distinction qui semblait, en tout cas dans ce que j'ai pu comprendre, semblait permettre une coexistence moins conflictuelle que celle que nous pouvons connaître dans nos pays, où justement, vous voyez, ce que je vous expliquais, quand c'est dans le pays de naissance des sciences, faisait que cette coexistence a relevé davantage de l'affrontement que de la qu'une coexistence, sinon pacifique, en tout cas relativement paisible. Je voudrais évoquer deux dossiers, enfin, à moins que vous ayez des questions sur ce bref, très très bref, enfin, cette première allusion un peu historique pour revenir sur deux dossiers plus récents. Est-ce que vous auriez des questions? N'hésitez pas. Apparemment non, donc je continue pour ne pas abuser de votre temps parce que le temps tourne, mais je suis un peu bavard. C'est pas pour rien que j'étais prêcheur à une époque, on parle beaucoup, les dominicains, paraît-il. Vous parlez du courant créationniste. Vous l'avez vu dans ma petite bio, c'est un sujet que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a déjà maintenant assez longtemps. Là, c'est un peu lié à mes origines professionnelle et à mon intérêt pour la biologie pendant pas mal d'années. Et c'est dans ce milieu de biologie que j'ai rencontré au milieu des années 90, parmi mes collègues biologistes, et bien, enfin, grâce à mes collègues biologistes, ces mouvements donc de créationnistes, d'opposition aux théories de l'évolution, parce que en France, on en parlait encore peu à l'époque, mais leurs collègues américains ou anglophones rencontraient de manière assez présente, enfin des mouvements donc dits créationnistes, autrement dit des mouvements d'opposition aux théories de l'évolution pour des raisons religieuses. Donc des gens qui confessaient que le monde dans lequel nous sommes a été créé par Dieu et qu'à ce titre, il n'était pas question d'admettre enfin, les théories de l'évolution et en particulier ses principes, puisque l'un des principes, pas le seul, après c'est le seul qui a été retenu par les créationnistes, c'est enfin, le rôle du hasard, je simplifie énormément, mais que les espèces évoluent par des processus aléatoires. Et ce côté aléatoire, pour les créationnistes, n'est pas compatible avec une foi créationniste, donc avec le fait que Dieu soit créateur et que Dieu ne peut pas laisser les choses au hasard, si je puis dire ça comme ça. Ces mouvements créationnistes sont anciens, puisqu'ils naissent avec cette révolution darwinienne dont je parlais tout à l'heure, donc pas en 1859. Bon, il y a déjà des oppositions dès cette époque-là, en Angleterre, en Europe et même aux États-Unis, mais c'est aux États-Unis vraiment que les mouvements créationnistes vont prendre consistance à la fin du 19e siècle et puis ensuite prendre vraiment une grande réalité, réalité sociale, réalité politique, parce que, Et ça, c'est important, et c'est là que je trouve que c'est un des points que j'aime, que je tiens à rappeler, c'est que dans l'enseignement créationniste, il y a un enjeu qui n'est pas simplement, voilà, ça me dérange de savoir que j'ai peut-être parmi mes ancêtres un être qui ressemble au singe que je peux encore croiser, enfin de moins en moins, parce que heureusement d'ailleurs, on a moins d'animaux comme ça dans les zoos, mais en tout cas, ou que je vois sur des films documentaires. Mais c'est parce que ces mouvements créationnistes, dès leur origine, dès le début du XXe siècle, ont pris pour cible le domaine de l'éducation. Si je puis dire, en bon fils de jésuite, les créationnistes savent que si on veut changer une société, il faut influencer le monde de l'éducation. Ce n'est pas dans les EHPAD qu'on change une société, c'est dans les écoles. Et dès le début du XXe siècle, eh bien, les créationnistes américains ont tout fait pour empêcher l'enseignement de toutes les théories donc, qui naissaient à ce moment-là, qui parlaient d'évolution dans les écoles. Avec plus ou moins de succès, ça dépendait dans quels États ces créationnistes œuvraient. Dans les États du Sud des États-Unis, évidemment, plus conservateurs, ça marchait mieux que dans les États du Nord. Mais il y a des États qui ont voté des lois interdisant purement et simplement l'enseignement des sciences naturelles avec la moindre allusion à l'évolution. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ces milieux-là qu'apparaît plus tard, au milieu du XXe siècle. Donc, vous voyez, là, on a l'illustration, pardon, d'une relation entre science et religion qui relève d'un refus de la part du monde religieux d'entendre parler de science. Ça, c'est une position possible. Au fond, à cause de mes convictions religieuses, je refuse purement et catégoriquement de tenir compte de ce que les scientifiques peuvent dire, dès lors que ça ne me convient pas. Me parler que l'homme descend du singe, c'est pas ce qu'a dit Darwin, mais ça ne me convient pas, ça n'existe pas. Me dire que l'univers aurait quelques milliards d'années, ne serait-ce que quelques millions d'années, alors que si je lis littéralement au pied de la lettre la Bible, je peux avoir un calendrier biblique et qui me dit que la Terre a 6000 ans. Si vous lui devez accorder plus de 6000 ans, vous êtes dans l'erreur, je ne veux pas en entendre parler. Refus catégorique. Ça existe encore aujourd'hui. D'une certaine manière, on ne va pas. Mais les tenants de la Terre plate, ça relève de ça. Je refuse, ça n'existe pas. Chez les créationnistes vont apparaître plus tard des mouvements qui vont proposer une vision différente de la science, en tout cas une attitude différente par rapport à la science. Lorsque, au milieu du XXe siècle, la science va prendre et les techniques vont prendre une part de plus en plus importante dans les sociétés. Et aux États-Unis, ça veut dire en particulier le début de la course à la Lune. Bon, là, vous savez aussi que je travaille pour l'agence spatiale, donc, mais aussi la mise au point de la bombe atomique et donc la question de la guerre froide où il s'agit d'avoir les technologies suffisantes pour tenir tête au bloc de l'Est. La place que prend dans la société américaine les sciences et les techniques font qu'on ne peut plus refuser la science, mais la stratégie retenue par les créationnistes, ça va être je dirais, d'avoir une position de falsification de la science. Puisque je ne peux pas m'opposer au discours scientifique évolutionniste ou en tout cas celle qui est enseignée, eh bien, je vais, comme créationniste, élaborer une science ou une pseudo-science, une fausse science, qui, elle, va reposer sur les éléments religieux qui sont les miens. Donc, les créationnistes élaborent des propos scientifiques qui vont donner, si c'est nécessaire, 6000 ans d'âge à la Terre, qui vont expliquer que le déluge bel et bien eu lieu il y a quelques milliers d'années. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'il y a du pétrole. C'est important pour les Américains qu'il y ait du pétrole. Eh bien, la formation du pétrole, il suffit d'un bon déluge pour le faire. L'existence des fossiles, là aussi, un déluge permet de les expliquer, etc., etc. Donc, une pseudo-science. Et ça aussi, c'est une attitude possible à l'égard des sciences. Au fond, je ne dis pas que la science est fausse, mais je prends la manière de parler des scientifiques, la manière d'élaborer des résultats scientifiques ou des observations scientifiques, et je l'adapte à mes propres convictions religieuses ou au message que je désire, message religieux que j'ai envie de faire passer. Donc on a une falsification de la science, une pseudo-science. J'en donnerai un autre exemple après. cette, d'ailleurs, on a parlé de creation science, une science de la création, donc tout un discours pseudo-scientifique suffisamment élaboré pour que dans certains États américains, je prends toujours l'exemple des États-Unis, eh bien, il y a des revendications pour que cette science de la création puisse être enseignée en cours de science dans les écoles, en disant, vous voulez enseigner les sciences et les techniques qui nous servent à contenir la menace soviétique, on ne peut pas empêcher l'enseignement des sciences, mais on demande à ce qu'une science de la création soit enseignée à temps équivalent, à temps égal, parce que nous considérons que de même qu'il y a vous dites qu'il y a une science de l'évolution, ben nous vous disons qu'il y a une science de la création. Évidemment, c'est une pseudo-science aux yeux de ce qu'est aujourd'hui une méthode scientifique ou une théorie scientifique. La troisième période du créationnisme et la troisième stratégie du créationnisme, c'est la plus récente, depuis les années 1990, celle qu'on appelle de l'intelligent design, donc le dessin intelligent, où cette fois-ci, les créationnistes se revendiquent moins d'un courant religieux, ne nient pas l'existence d'une évolution parce qu'il y a des fossiles, parce qu'il y a des datations, il y a un tas de choses qui leur semblent s'imposer venant du milieu scientifique, mais en revanche, il s'oppose à la vision qui est derrière, en particulier ce que je disais tout à l'heure, la place laissée au processus aléatoire, en disant non, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui ne peut pas être le résultat de processus aléatoires, il est beaucoup trop complexe, il est pour arriver à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous, les êtres vivants, là, qui discutons à distance, qui sommes capables qui avons une intelligence, tout ça ne peut pas être uniquement le fruit du hasard. Il faut qu'il y ait à l'œuvre un dessein intelligent. Et nous rassurons, ne parlez pas de Dieu, nous parlons simplement d'un espèce de Deus ex machina qui vient expliquer tout ce que la science ne peut pas expliquer ou laisse, ou semble laisser. À l'action du hasard. Et l'intelligent design est une forme qui, elle aussi, va tenter d'être enseignée dans les écoles et en tout cas va se défendre comme position alternative au discours scientifique tel que, il faut encore, le discours scientifique officiel. Donc, une alternative. C'est aussi une autre manière de voir. Pourquoi je vous parle du créationnisme, et je vous le disais tout à l'heure, c'est parce que, donc vous voyez déjà, le créationnisme est, à mon avis, présente des exemples de ces différentes manières dont science et religion peuvent s'affronter ou s'articuler, voire même quand la religion tente de récupérer la science. Donc c'est une forme d'illustration de ces types de relations, je pourrais dire. Et c'est aussi parce que le créationnisme, loin d'être un exemple de nos cousins d'Amérique, avec leurs spécificités, leur côté parfois un peu pittoresque, tragiquement pittoresque aussi, mais le créationnisme n'est pas un produit qui est resté sur le territoire américain. Il s'est rapidement exporté, d'abord dans les pays anglophones. L'Australie a connu des épisodes créationnistes assez tragique en termes de carrière scientifique et de fait de société. L'Angleterre a été aussi ensuite un peu envahie. Pendant longtemps, l'Europe a connu, disons, des mouvements créationnistes par le biais de sociétés bibliques. C'était le milieu chrétien qui était par moments attaqué, où il y avait des communautés chrétiennes qui professer une forme de créationnisme et qui tentait de divulguer des idées créationnistes. En France, c'était vraiment une petite, petite minorité. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler ces dossiers-là, on en parlait quand même très peu. Et puis est arrivée petit à petit la montée de l'islam, avant même d'être radicalisé, fondamentaliste, intégriste, qui a aussi véhiculé et qui continue à véhiculer ces idées créationnistes. Donc aujourd'hui, l'un des dossiers sciences et religion les plus sensibles en France, c'est cette question du créationnisme tel qu'il est porté par l'islam fondamentaliste, voire ou intégriste, puisque ce sont des termes aussi bien fondamentalisme qu'intégrisme qui peuvent aussi être appliqués au créationnisme d'ailleurs américain. Donc à la fois dans le rapport particulier au texte sacré, hein, c'est le Coran ou c'est la Bible qui a raison contre tout le reste, hein, il s'agit de le lire au pied de la lettre, mais aussi dans le côté donc fondamentaliste par rapport aux convictions religieuses, qui restent indiscutables, donc le côté dogmatique, hein, il n'y a pas de, on ne transige pas avec le dogme, et puis le côté intégriste qui est aussi une caractéristique du créationnisme, mais que l'on retrouve évidemment dans une certaine forme d'islam aujourd'hui. Pour autant, donc le créationnisme musulman, nous en avons connu une forte poussée, ou en tout cas une espèce comment dirais-je, de poussée de fièvre il y a une douzaine d'années, avec peut-être que certains d'entre vous l'ont aperçu, une diffusion de ce qu'on appelait l'Atlas de la création, donc un beau jour, si je puis dire, a été divulgué à tous les établissements scolaires de France, à des centres de bibliothèques, de centres de documentation, etc. Donc, toujours dans le milieu de l'éducation ou l'enseignement, un énorme ouvrage de 7 kilos qui faisait la promotion au fond du créationnisme. Enfin, l'évolution n'existe pas, seule la voie du Coran est valable quand il s'agit de s'interroger sur l'origine du monde. Et donc, il a fallu à ce moment-là se rendre compte qu'il y avait déjà longtemps que ces mouvements, ces courants créationnistes, eh bien, existaient en France et surtout étaient comment dirais-je, des concurrents à l'enseignement des sciences de la vie telles qu'on les enseignait dans nos écoles, telles qu'on continue d'enseigner dans nos écoles, avec une dimension de l'évolution. Et cela était l'occasion de se rendre compte que l'enseignement des sciences n'est pas toujours facile et qu'il y a des points sur lesquels c'est des questions sensibles. J'en parlais encore récemment parce que je discutais avec un professeur d'histoire des religions et qui disait, au fond, ben non, il n'y a pas de problème, il suffit de bien expliquer aux élèves que il y a la science, c'est la science, la religion, c'est la religion, et que ce n'est pas la même chose. Oui, en théorie, mais quand vous enseignez ce que je vous disais tout à l'heure, l'origine de l'univers, passe encore. Mais quand vous enseignez la physique, ok, on va pas se crêper le chignon, si vous me permettez l'expression, sur même pourquoi pas de la géologie ou de la géophysique. Mais quand on arrive à l'origine de l'homme, quand on arrive sur les questions donc d'évolution et de l'espèce humaine, là, vous avez des choses beaucoup plus sensibles et un certain nombre de professeurs de sciences de la vie, de sciences naturelles, peuvent se trouver en difficulté parce que une chose est d'enseigner les sciences, une autre est de pouvoir aborder de l'histoire des idées, de l'histoire des religions face à des jeunes qui ne veulent rien entendre dès lors que ça touche à un certain nombre de sujets sur lesquels ils ont été briefés auparavant par leur chef religieux ou par leurs parents et qu'ils savent qu'à ce moment-là, il faut fermer ses oreilles et refuser totalement. Et ça, évidemment, cela pose des problèmes aujourd'hui. Et quand je parlais tout à l'heure d'autorité et de pouvoir, et évidemment, aujourd'hui, que penser justement du monde de l'éducation que nous connaissons, où l'autorité des professeurs, quand ce n'est pas plus que l'autorité, est mise en danger. Donc, le créationnisme n'est pas du tout un dossier mineur, me semble-t-il, dans les difficultés que nous pouvons aujourd'hui rencontrer dans notre société, dans nos sociétés, vis-à-vis de certaines revendications religieuses, parce que, je répète, ça touche directement le milieu de l'éducation et que c'est un milieu évidemment très sensible. Quand je parlais alors, je viens de parler d'islam, je ne s'agit pas du tout de focaliser dessus. Il y a des mouvements créationnistes chrétiens, en France en tout cas, plus discret que l'islam, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Dans d'autres pays, ils sont peut-être plus présents. En Allemagne, il y a déjà depuis longtemps qu'un certain mouvement créationniste chrétien existe et revendique à la fois une existence et puis aussi une présence dans le monde de l'éducation qui est assez analogue à celui des créationnistes américains, donc enseigner les sciences de la création dans les écoles, comme on enseigne les sciences tout court. Et il y a comme ça des mouvements qui sont très très présents, au point que l'Académie, enfin, je ne sais pas si l'Académie des sciences, en fait, une académie scientifique allemande a encore récemment rappelé qu'il était absolument impératif de donner une place, et donner une place prioritaire et primordiale à la théorie de l'évolution dans les écoles, et de ne pas se laisser influencer par des enseignements qui n'ont rien de scientifique, qui sont une fois encore des pseudo-sciences. Un autre exemple qu'on m'a rapporté récemment, et je ne me rendais pas compte de ça, et c'est plutôt pour... Bon, alors je ne vais pas très... Enfin, pas au fait des détails, mais vous voyez, donc là, qui vient compléter et qui vient de ce que j'ai dit tout à l'heure, non pas de falsification, mais une espèce de... Je dirais, non pas de syncrétisme, mais ce serait un petit peu, on pourrait utiliser le terme de syncrétisme, à travers une tentation assez régulière qui, cette fois-ci, prend la forme d'une médecine chrétienne. À une époque, avant la science de la création des créationnistes, il y a eu une époque en Europe, on parlait d'une science chrétienne, hein, le désir de face à la montée des sciences qui étaient nécessairement, semblait-il, athées, matérialistes et anticléricales, il y a eu des tentatives de science chrétienne. Qui ont avorté. Là, avec la médecine chrétienne dont j'ai entendu parler récemment et qui a des racines en Roumanie, semble-t-il, on est sur une tentative d'amalgame. Alors, la médecine, c'est une application des sciences. On dirait que c'est plus proche de la technique ou d'ingénierie, excusez-moi, que de la science. On a besoin de la science pour pouvoir avoir des applications. Et dans la médecine chrétienne, c'est une tentative d'unir ces deux domaines pour le bien des gens, évidemment, c'est comme ça en tout cas. Et il y a, bon, la Roumanie semble être un berceau de ce genre de choses, avec des courants, des mouvements, des auteurs, des publications, des cliniques qui s'ouvrent, de médecine chrétienne, où on vous explique que. Bon, bah, si vous priez, vous serez guéri plus vite. Si vous utilisez de l'eau bénite, vous serez protégé contre un certain nombre de bactéries, que l'imposition des mains, enfin, etc. Enfin, tout ce que l'on peut imaginer comme forme un peu étrange, en tout cas qui, moi, me paraissent étranges, eh bien, sont sans guère de difficultés enseignées, promulguées, proposées, non seulement aux fidèles, mais aux étudiants en médecine, enfin, avec toute une. Donc tout un appareil qui rappelle un peu la stratégie des créationnistes, en tout cas dans ses mises en œuvre, où tous les moyens sont bons pour exister, pour aussi eh bien, critiquer l'autre système. Parce que derrière ça, on a aussi l'opposition au vaccin, l'opposition à la contraception, et toutes les dimensions morales qu'on peut développer. Et c'est vrai que pour les observateurs roumains ou aussi extérieurs, un vrai souci par rapport à ce type de propos, surtout dans le contexte actuel, parce que évidemment, vous imaginez bien que ces gens-là sont très forts en com, ne vous présentent pas immédiatement un discours religieux, mais vont peut-être pouvoir entrer chez vous ou mettre le pied hein, pour empêcher la porte se referme en vous parlant d'une thérapie plus naturelle, enfin le retour à la nature, les thérapies douces, et par ce biais, mais un petit à petit d'intégrer des propos qui vont devenir confessionnels, religieux, quand ils ne sont pas nationalistes et politiques, parce que tant qu'à faire, autant rajouter la dimension politique, comme d'ailleurs chez les créationnistes, vous l'avez aussi parfois, et comme vous savez, dès qu'il y a aux États-Unis, dès qu'il y a des élections, les créationnistes aussi veulent avoir leur place. Voilà, donc je ne vais pas aller allonger mon propos à la fois dans les exemples et dans le développement historique, plutôt conclure en vous donnant quelques convictions, enfin quelques convictions ou quelques enseignements que mon expérience, je vous dis, c'est plus une expérience qu'une grande réflexion, une grande spéculation intellectuelle, parce que depuis, je ne sais pas, presque 30 ans que je navigue dans ces milieux science et foi, quand je dis naviguer, c'est parce que, vous l'avez entendu, bon, eu l'occasion de. Je continue à fréquenter les milieux scientifiques, je suis aussi engagé dans les milieux religieux. En fonction des milieux que je fréquente, parfois j'étais catalogué créationniste, parfois j'étais catalogué de darwiniste, de crypto-darwiniste ou de crypto-créationniste. Enfin bon, pour qui je navigue? Est-ce que je navigue pour le Vatican? Est-ce que je navigue pour Darwin? Enfin bon, ce qui est plutôt d'ailleurs rassurant quand on ne sait pas trop où vous placer. Bon, moi j'ai aussi tâché d'avancer avec à la fois, comment dirais-je, mon engagement dans le milieu scientifique, ce que je sais du travail de mes confrères, de mes consoeurs scientifiques, ce qui sont aussi mes convictions religieuses, et comment faire sa route dans tout ça. Je vous disais tout à l'heure, un de mes récents interlocuteurs me disait, bah, il suffit d'expliquer, et puis c'est tout simple, quoi. Il y a la raison, il y a l'intelligence, il y a les théories scientifiques, et puis par ailleurs, il y a bon, la religion. Alors. Voilà, c'est quand même pas difficile. Et puis, bon, bah, regardez, il y a des scientifiques, bah, ils font de la science dans la semaine, et puis le dimanche, ils vont au temple ou à l'église, le samedi à la synagogue, le vendredi à la mosquée, et puis tout va bien. Donc, on sépare bien les domaines. Comme disait un très grand paléontologue américain, Stephen Jay Gould, grand vulgarisateur, c'est le non-empiétement des magistères. Le magistère scientifique et le magistère religieux, et pas d'empiètement, et puis tout est parfait. Comme disait Galilée, hein, les uns disent comment on va au ciel, les autres disent comment on va au ciel, et puis tout est réglé. Certes, mais ça, ce serait dans un monde, même pas un monde idéal. Parce que d'abord, quand il s'agit de jeunes, puisque je parlais de l'enseignement, c'est pas si simple que ça à expliquer. Parce que de toute façon, eux, ils ont voilà, le propos de leur enseignant, mais ils ont d'autres propos qui leur sont assénés par ailleurs. Et puis, c'est bien beau, le non-empiétement des magistères, je peux comprendre cette expression. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger le propos, la parole, l'autorité. Mais il faut aussi empêcher la schizophrénie, parce que la schizophrénie, c'est une maladie, bien sûr. Mais je veux dire par là que, ben voilà, moi, je passe mes journées à l'agence spatiale, mais je ne. C'est pas un autre Jacques Arnoux qui, le dimanche, va à la cathédrale de Chartres, ou même, ça lui arrive, d'écrire des bouquins de théologie. Enfin, j'ai pas été détecté comme schizophrène, j'espère que ce ne sera pas le cas. Il y a quand même, enfin, avant même de parler de dialogue, nous sommes des êtres qui tentons d'être un peu unifiés. Et puis, il y a des gens, enfin, Xavier le rappelait, il y a des prédécesseurs, en tout cas. Je ne suis pas maître des prédécesseurs parce que je ne suis pas à leur niveau. Un Georges Lemaître, un des découvreurs de ce qu'on va appeler la théorie du Big Bang, le chanoine Georges Lemaître, a priori, on n'était pas fou et il a mené à la fois des grandes recherches dans le domaine scientifique et il était par ailleurs un éminent ecclésiastique, président de l'Académie pontificale des sciences, un Teilhard de Chardin, un de mes, si je puis dire, compagnons de voyage, lui aussi. Bon, à tâcher d'articuler ces domaines dans sa propre démarche de personne et individuelle. Donc, il y a peut-être d'autres choses, enfin, il y a peut-être à aller plus loin que la simple séparation des magistères. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi invite un philosophe que l'on ne pourra pas taxer de pseudo-théologien, Dominique Lecour, un philosophe français qui justement a plutôt invité ses amis philosophes à travailler la question. Il y a besoin aussi d'un travail philosophique et de toute la sagesse du philosophe, peut-être, pour avancer et nous rappeler que l'être humain, lui, est sinon unique aujourd'hui, en tout cas, tente toujours d'aller vers une certaine unification des choses. Donc, il faut, y compris dans ce domaine-là, tenter de le faire et s'interroger, effectivement, sur les enjeux autour de la question de l'origine ou du destin de l'univers. Enfin, voilà des questions qui doivent être alimentées par le travail philosophique. J'ajouterai, et je pense que là c'est une exigence que nous devons avoir vis-à-vis des milieux religieux, quels qu'ils soient, c'est l'exigence théologique. Je veux dire par là que, enfin, en tout cas, dans le monde qui est le nôtre et la société qui est la nôtre, nous sommes quand même. Une culture, une longue tradition française, mais pas seulement française, d'intelligence, je trouve. Et il faut que, eh bien, les religions soient des lieux d'intelligence de la foi. Alors, ça s'appelle la théologie. C'est une vieille tradition, dans les religions, plus ou moins honorées. Par moments, les théologiens sont mal vus, bon, parce qu'ils remuent un peu trop le cocotier du dogme et disent qu'il faut bouger, qu'il faut peut-être même déraciner ce cocotier du dogme. Mais c'est un travail absolument indispensable que nous devons exiger de la part des religions, ce travail d'intelligence. Sans lequel, eh bien, vous le savez, les textes sacrés sont lus au pied de la lettre, alors que les sciences littéraires nous disent que ces textes-là ont été élaborés au fil des siècles par des cultures, des milieux différents, et que tout ça, au lieu ne le racornit pas, ce texte sacré, ne le dessache pas, mais au contraire, l'enrichit, l'alimente, le rend encore plus fructueux. Bon, ce n'est pas l'avis de tous les croyants, mais les religions qui sont passées par là n'en ont été que plus riches. Et il faudrait que toutes acceptent non seulement d'entrer dans ce travail exégétique et dans ce travail théologique, mais bien sûr, il demeure, hein, et reste permanence dans cette perspective d'intelligence. Je suis désolé de dire, quand je lis des travaux de créationnistes, pour moi, ça a été le grand désespoir quand j'ai commencé à le faire, maintenant il y a quelques années, c'est de voir la pauvreté théologique de ces textes. Il y a absolument aucune réflexion, aucune intelligence. Je ne dis pas qu'ils sont bêtes, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est parfois des croyants magnifiques, mais des croyances sans intelligence. Or, l'intelligence, pour moi, fait partie de la démarche croyante. Dans tout ça, il y a aussi à interroger évidemment les sciences. Bon, je n'ai jamais oublié que la situation parfois conflictuée dans laquelle on peut être, et je pense même au créationnisme, et là aussi ça a été pas mal de discussions dans les groupes que j'ai pu rencontrer, aussi bien scientifiques que religieux, c'est que, vous le savez bien, quand il y a un conflit, on ne peut pas nécessairement, enfin, il n'y a pas les bons et les mauvais. Les créationnistes ont sans doute lancé les choses, et puis ils avaient ces vieux relents religieux des oppositions et de ce Giordano Bruno que j'évoquais au début de mon propos, mais les scientifiques aussi n'ont pas hésité à rajouter de l'huile sur le bûcher, alors peut-être pas Giordano Bruno, mais d'autres, en tout cas sur le feu. Et quand un Richard Dawkins publie un ouvrage, The God Delusion, qui a été traduit en français, Pour en finir avec Dieu, à partir de tout. D'arguments, enfin de son aura scientifique, et évidemment, il sait bien qu'il va provoquer les milieux religieux et que cette provocation crée encore plus de réactions de la part des créationnistes. Ceux qui tâchent d'avoir une démarche plus intelligente se posent des questions, sont maintenant bousculés, sont entrés en débat, mais c'est surtout les membres créationnistes qui trouvent encore plus de raisons de lancer des croisades telles qu'ils ont pu les lancer il y a quelques années, qui ne cessent de continuer à le faire. Donc, s'il y avait un mot, le seul mot, ce serait tâchons d'être plus intelligents et de mettre de l'intelligence et de l'intelligence collective. Ce n'est pas une intelligence qui dessèche, hein, surtout pas, au contraire. Je suis d'accord avec un biologiste américain qui intitulait un de ses ouvrages, qui a déjà au moins une douzaine d'années, peut-être à l'occasion des festivités autour de Darwin, qui intitulait son livre Le cadeau de Darwin. Et parmi les récipiendaires de ce cadeau, il y avait les religions, et je suis persuadé qu'effectivement, les religions ont tout intérêt à accueillir le propos scientifique avec une fois de plus intelligente. J'attends vos questions avec grand intérêt et impatience.